Chapitre 24. Tout ce qui précède, à partir du chapitre 21, verset 23, s'est passé dans l'enceinte du temple. Maintenant, au chapitre 24, Jésus sort et les disciples veulent attirer son attention sur quelques-uns de ces magnifiques bâtiments. Cela leur vaut la prédiction qu'il allait être rasé jusqu'à ses fondations. Ils s'enquièrent alors du moment où ces paroles auraient leur accomplissement, qu'il lie avec la consommation du siècle. Le Seigneur commence par répondre que le but de ses prédictions est de nous avertir et de nous fortifier par avance, et non simplement de satisfaire notre curiosité ou même notre soif de précision. Nous avons à prendre garde, nous aussi, à cette tendance. De faux Christs sont annoncés, ainsi que des guerres et des bruits de guerre, mais ces choses n'indiquent pas que la fin est là. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre, et aussi, en effet, des guerres. Mais ce n'est qu'un commencement de douleur. À ces épreuves s'ajouteront la persécution et le martyre des disciples, l'apostasie de certains qui auront fait profession d'être disciples, la présence de faux prophètes, un redoublement d'iniquité et l'abandon de Dieu par de nombreux professants. Dans un tel moment, les fidèles seront caractérisés par la persévérance jusqu'à la fin où ils seront sauvés. En outre, pendant ce temps, Dieu maintiendra son propre témoignage parmi toutes les nations, et alors seulement la fin viendra. Trois fois dans ces versets, le Seigneur parle de la fin, et chaque fois il s'agit de la consommation du siècle, à propos de laquelle les disciples l'avaient questionné. À ces vrais disciples, caractérisés par la persévérance, la fin apportera le salut. C'est la première chose qu'il mentionne, avant de dire que pour ses ennemis, elle amènera le jugement. Remarquons que c'est cet évangile du royaume qui doit être prêché pleinement avant que la fin vienne, c'est-à-dire l'évangile que le Seigneur lui-même avait prêché, voir chapitre 4, verset 23 et chapitre 9, verset 35, annonçant que le royaume s'était approché. L'évangile que nous proclamons aujourd'hui, voir 1 Corinthiens 15, verset 1 à 14, ne pouvait pas être annoncé avant la mort de Christ. Au temps de la fin, l'abomination de la désolation dont il a été parlé en Daniel 12, verset 11, sera établie dans le lieu saint, et le verset 16 montre que Jérusalem est en cause. Il y aura manifestement de nouveau un temple avec son lieu saint, à la fin, et il sera profané par cette idolâtrie si abominable. La prophétie du chapitre 12, verset 43 à 45, aura son accomplissement à cette époque. L'esprit immonde d'idolâtrie entrera avec une force septuplée dans le peuple. Celui-ci, dans son ensemble, acceptera cette abomination établie dans le lieu saint, très probablement l'image de la bête mentionnée en Apocalypse 13, versets 14 et 15. Cette iniquité suprême sera la cause de la désolation qui les frappera selon le juste gouvernement de Dieu. Or, l'établissement de cette abomination sera, pour les fidèles, le signal que la grande tribulation annoncée a commencé et que leur salut dépend de leur fuite hors de Jérusalem et de la Judée, où la fournaise de l'affliction sera la plus ardente. Le Seigneur s'adressait à ses disciples qui, à ce moment, n'étaient que des Israélites pieux entourant leur Messie sur la terre, même si bientôt ils devaient être édifiés sur le fondement de l'assemblée qui allait être bâtie. Mais à ce moment-là, ils représentaient non pas l'assemblée, mais le résidu pieux d'Israël, qui observera encore scrupuleusement la loi du sabbat, verset 20, et plusieurs d'entre eux demeureront en Judée. Ils devront fuir immédiatement. Cela concorde avec ce qui nous est présenté symboliquement en Apocalypse 12, verset 6. La grande tribulation sera absolument sans précédent. Elle ne sera jamais égalée, et encore moins surpassée. Le Seigneur le dit au verset 21, et le livre de l'Apocalypse en donne la raison. Ce sera le temps où la colère sera versée des cieux, le déversement des coupes de jugement. Ce ne sera pas simplement des hommes frappant des hommes, ou une nation châtiant d'autres nations, comme nous en avons des exemples aujourd'hui, mais ce sera Dieu châtiant les nations en réglant ses comptes avec elles. La colère de Dieu est révélée du ciel, Romains 1, verset 18, bien qu'elle ne soit pas encore exécutée, et pour ce qui concerne les nations, elle s'abattra à ce moment sur elles. Les nations comme telles n'existent que dans ce monde, elles ne demeurent pas au-delà du tombeau, tandis que les hommes qui les composent, eux, subsistent. Il y aura des élus sur la terre pendant la tribulation, et à cause d'eux, celle-ci sera abrégée. Verset 22. En Romains 9, verset 28, nous lisons que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre, et cela afin qu'un résidu soit sauvé. Aujourd'hui, Dieu dispense la grâce par l'Évangile, et il en a fait une affaire de très longue durée, qui a commencé il y a près de 20 siècles. Lorsqu'il s'agira de la colère, il fera une œuvre rapide qu'il abrégera en justice. D'autres passages nous indiquent qu'elle s'étendra sur le court laps de temps de 3 ans et demi. Ainsi, la bonté de Dieu sera manifestée tant en grâce que dans la colère. À cette époque, le diable, sachant parfaitement bien que le retour de Christ est imminent, s'emploiera à brouiller les choses en suscitant des imposteurs qu'il dotera de pouvoirs surnaturels pour tâcher de séduire les élus qui l'attendent. Le verset 24 indique clairement que les signes miraculeux ne sont pas tous de Dieu. Il en existe de deux sortes, divins ou diaboliques. Dans ceux qui sont de Dieu, on peut reconnaître une manifestation du caractère divin en grâce et en puissance. Les miracles diaboliques, de leur côté, ont souvent un aspect plus voyant, plus étonnant et attrayant pour les inconvertis. Que ceux qui, aujourd'hui, recherchent désespérément le miraculeux, prennent garde à ne pas se laisser séduire. La venue du vrai Christ de Dieu sera accompagnée de la plus grande publicité possible, comme l'éclair. Personne ne sera contraint de se retirer dans un désert ou dans une chambre intérieure pour le voir. De même que les vautours s'assemblent où sont les cadavres, le jugement s'abattra partout où les hommes seront trouvés dans la putréfaction et la pestilence du péché. La tribulation sera suivie par la destruction et le renversement des puissances établies, tant dans le ciel que sur la terre, et alors le Fils de l'homme sera manifesté dans sa gloire. Deux fois déjà, le Seigneur a parlé du signe de Jonas le prophète, au chapitre 12, versets 39 et 40, et au chapitre 16, verset 4, c'est-à-dire du Fils de l'homme passant 3 jours dans le tombeau. Ici, nous avons le signe du Fils de l'homme dans le ciel, le signe qu'enfin Dieu va revendiquer ses droits sur cette terre rebelle et les faire exécuter par l'homme de son conseil et de son choix. Ce sont là deux bien grands signes. Personne ne saurait dire lequel est le plus grand. Les deux le sont également en leur temps et sont dignes de notre adoration. Après être apparu en gloire, le Seigneur rassemblera ses élus, ceux à cause desquels les jours de la tribulation ont été abrégés. Ce rassemblement sera effectué par le ministère des anges et signalé par le grand son de la trompette. Ce sera l'accomplissement de la fête des trompettes, Lévitique 23, versets 24 et 25, comme la mort de Christ a été l'accomplissement de la Pâque et le don de l'Esprit et la formation de l'Assemblée, celui de la Pentecôte. Ce rassemblement des élus est en vue de la bénédiction millénaire. L'enlèvement au ciel ou même la résurrection ne sont pas mentionnés, car il s'agit du rassemblement des vivants sur la terre. Au chapitre 16, le Seigneur a révélé qu'il allait bâtir son assemblée, mais il n'a parlé ni de son appel, ni de sa destinée céleste. Aussi ne faut-il pas voir l'assemblée au verset 31. À partir du verset 32, nous avons une série de paraboles ou de déclarations sous forme de paraboles. Le figuier nous parle des Juifs. Lorsque nous verrons ce peuple reprendre vie en tant que nation, nous connaîtrons que l'été est proche. Mais cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses ne soient accomplies et que ce moment soit arrivé. Le Seigneur a parlé plusieurs fois de cette génération. Voir chapitre 11, verset 16, 12, verset 39 et 45, 16, verset 4. C'est une génération très ancienne et persistante, car Moïse l'a dénoncée en Deutéronome 32, verset 5 et 20. Des fils en qui il n'y a pas de fidélité. La génération incrédule sera jugée lorsque Jésus viendra, pas avant. Ils passeront, mais les paroles de Christ demeureront. Le moment exact de sa venue est un secret connu du Père seul qui a réservé à sa propre autorité tous les temps et saisons. Voir Acte 1, verset 7. Et de ce fait, il surprendra complètement le monde insouciant. Il en sera comme au jour de Noé. Les hommes sont absorbés par leurs plaisirs jusqu'au moment où le jugement s'abat sur eux. Sophonie 3, versets 11 à 13, aura son accomplissement. Les transgresseurs seront retranchés par le jugement. Les affligés et les pauvres qui ont mis leur confiance dans le nom du Seigneur seront laissés pour les bénédictions milléniales. Ils sont le résidu d'Israël. Arrivé au verset 42, nous voyons de nouveau le Seigneur veiller à ce que ces réalités prophétiques aient leur effet sur la conduite de ses disciples. Puisqu'ils ne savaient pas l'heure, ils devaient être caractérisés par la vigilance et la fidélité dans le service. Le serviteur qui est établi pour gérer la maison doit faire face à sa responsabilité. Il sera alors béni et récompensé. D'un autre côté, des hommes peuvent prendre la place de serviteurs et être pourtant des méchants. Ils ne se préoccupent pas de leurs responsabilités et maltraiteront ceux qui sont serviteurs avec eux, disant dans leur cœur « Mon maître tarde à venir ». Telle est toujours la pensée qui prévaut dans le monde. Les hommes écoutent la prophétie, puis ils disent « La vision que celui-ci voit est pour des jours lointains, et il prophétise pour des temps éloignés. » Ézéchiel 12, verset 27. Le vrai serviteur se tient prêt pour la venue de son maître et s'occupe diligemment de ses intérêts en l'attendant. Les versets 50 et 51 montrent que le méchant esclave dont il s'agit ici n'est pas un homme coupable d'un manquement grave et qui serait néanmoins sincère dans le fond, mais quelqu'un de totalement faux. Son maître le jugera et lui donnera sa part avec les hypocrites, car il en est un lui-même. Il est banni par le jugement dans la compagnie de ses pairs. Lorsque l'hypocrite est démasqué et jugé, il y a pleurs et grincements de dents.